communication, ça n'existe pas exactement comme ça chez nous, mais enfin, dans la tradition juive. Et que c'est une entité indélébile. Quand même, le tribunal prend acte à un certain niveau que tel individu a quitté Israël. Mais en fait, ça ne passe pas par l'adhésion à un credo, l'adhésion à une charte de parti. Parce qu'on n'est pas juif par la croyance, on est juif par l'identité. Nous avons à parler de ça souvent. Par conséquent, quel que soit le degré d'assimilation à une culture étrangère, un juif reste un juif. Ça, c'est acquis de façon irréversible. Regardez ce qui se passe chez une partie très notable, peut-être pas tous, de la communauté juive de Russie, qui ont été vraiment assimilés à une culture étrangère, par le biais de l'éducation marxiste, de plusieurs générations qu'ils ont reçues, enfin soviétique plus que marxiste. Cette espèce de résurrection d'identité profonde qui est spectaculaire. Et comme quoi, si vous voulez, il y a là quelque chose d'indélébile. Et donc, lorsque vous dites qu'on voit des juifs devenir des goyim, c'est une façon de parler. Un juif ne devient pas goy.
Mais par contre, un goy peut acquérir cette identité.
Juif, n'importe qui. Même un sous-goy. À condition que ce soit dans les règles. Ça veut dire, même pour entrer dans un club de pêcheurs à la ligne, il y a des règles. Alors, une seule adresse, le rabbin Guggenheim.
Le problème de Spinoza, alors, qui a été exclu de la
Oui, Spinoza. Mais vous voyez, je pensais à ce cas tout à l'heure.
Jean-Pierre disait, quand un juif se convertit au christianisme, il y a un chrétien de plus, mais il n'y a pas un juif de moins.
Je ne crois même pas qu'il y ait un chrétien de plus. Il y a un cheval de Troie. Mais, oui, le cas de Spinoza, c'est précisément un des cas. Vous voyez, Spinoza n'a pas été condamné à cause de ses idées. Je vous cite là un enseignement très important que nous sommes deux à avoir reçu de Jacob Bordin, Zichrono Livracha, il y a 30 ans, quand nous étions jeunes étudiants au quartier latin. Spinoza n'a pas été condamné pour ses idées. Il a été condamné parce qu'il a été calomniateur de la communauté juive auprès des autorités de Hollande. Un tout autre procès. Et il était malchim, la malchim et la minima teitiva. Malchim. Et alors, suivant, disons, les habitudes juridiques de l'époque, il a été, disons, mis à l'index, lui et ses livres. Vous comprenez bien, c'est pas ses livres et lui, c'est lui et ses livres. Lui et ses livres. Mais il n'est pas condamné pour ses idées. Il est condamné parce qu'il était, comment dire, traître politique à la communauté juive. C'est vraiment un traître à la communauté juive. Et alors, donc, si vous voulez, on arrive là au cas, un cas extrêmement complexe. D'ailleurs, si vous avez encore les archives de ce temps-là, nous avons été l'honneur d'un canular monumental du preuve. Enfin, ça, c'est des histoires d'étudiants. Mais le problème, si vous voulez, c'est celui du Zaken Mamré. Si un juif, membre de la communauté, a les idées qu'il a, fût-ce hérétique au possible, par exemple, il se prend pour le fils de Dieu, une véritable hérésie. Eh bien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des psychologues parmi vous, c'est pas grave. Vous savez, il y a des pulsions qui nous traversent. Et alors quelqu'un pense quelque chose. Pour ça, on va lui enlever le sens de sa vie, parce qu'il a pensé quelque chose, et qu'il a cru à ce qu'il a pensé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le judaïsme, c'est pas du tout une religion fondée par un fondateur de religion. Le judaïsme, c'est la tradition prophétique du créateur du monde. Ça n'a rien à voir. Alors on va pas jouer à ça, d'enlever le monde à quelqu'un à qui Dieu a donné le monde, parce que ce quelqu'un, ben, il pense ce qu'il pense. C'est pas grave. Je pense que c'est clair. Mais s'il dit que c'est ça la vérité de la Torah, alors là il devient Zaken Mamré. Alors là il est mis à l'index. Est-ce que c'est clair? C'est très important ce que je vous dis là.
C'est
la notion
du
prosélytisme. Non, attendez, c'est encore un autre problème. Je m'explique.
C'est-à-dire qu'il n'a pas dit simplement c'est la vérité, il a dit c'est la vérité de la Torah.
Oui.
C'est ça le.
Oui. S'il dit, oui, c'est la vérité au nom de Dieu.
Au nom de la Torah.
Oui. C'est-à-dire, mais je ne vous ai pas traduit encore, Zaken Mamré, c'est difficile à traduire. Zaken, ça veut dire Tamil Chacham, Zekana Chochma, Zaken. Et on pourrait dire, comment dire, c'est pas un vieillard, Zaken, ici, c'est le le sage, si vous voulez, enfin, le, celui qui a le droit de siéger au tribunal, s'appelle Zacchée. Celui qui a le droit de siéger au tribunal, c'est-à-dire de légiférer au nom de la communauté. Mamré, rebelle. C'est-à-dire un simple fidèle. Un fidèle, tous les fidèles sont simples d'ailleurs. Eh bien, un fidèle, ça veut dire un homme de la foi. Non, ça c'est du français, ça, enfin. Un membre de la communauté. Et c'est pas seulement une tolérance. Ne croyez pas que ce soit seulement une tolérance. C'est comme ça. L'individu peut se tromper. Et on ne va pas disqualifier quelqu'un parce qu'il s'est trompé. On considère que quelqu'un qui se trompe de bonne foi est dans le cas de Anus. Vous savez, Anus,
contraint.
Il est irresponsable. Parce qu'il croit que c'est vrai. Alors, il croit que c'est vrai, donc il est. Donnez-moi quelque chose de plus précis. Anus.
Contraint.
Oui.
Pensée.
Bon. Non.
Enfoui. Enfoui.
Enfoui, c'est la mousse. C'est
la mousse.
Le mot a été dit. Il est abusé. Il est pas inconscient, irresponsable, non responsable. Pas irresponsable dans le sens de d'irresponsabilité psychique, mais non responsable, non coupable. Si vous voulez, il y a des circonstances extérieures. Enfin, et alors, ça c'est un membre de la communauté. Il pense quelque chose. Bon, on va pas excommunier quelqu'un, entre guillemets, parce qu'il pense quelque chose et qu'il s'est trompé. Vous savez, le propre de l'erreur, c'est de se faire prendre pour la vérité. Alors, quelqu'un qui est dans l'erreur, il est dans l'erreur. C'est, je veux dire, c'est pas du tout le critère de la tradition juive de définir quelqu'un par ses idées. Je pense que c'est clair. Il n'y a pas de délit intellectuel. Ça n'existe pas. Ce serait du terrorisme intellectuel. Mais celui qui dit ce que je dis là et qui n'est pas ce que dit la tradition, c'est ça le vrai judaïsme, alors celui-là est dangereux. Et celui-là est Zaken Mamré, il est Benidoui. On dit Benidoui, c'est pas Herem, c'est Nidoui. Il est mis dans un coin en attendant. Il est mis dans un coin en attendant que ça lui passe. Parce qu'il faut être... Bien. Vous voyez quel est le problème là, de Spinoza. Il est Zaken Mamré. Bien, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous poser une question là-dessus que j'attends. Et...
Oui. Sauf qu'il est quand même parfois difficile.
Plus fort.
Parfois la tradition apparaît elle-même pluraliste. Et alors, il est parfois difficile de voir justement le moment de divergence avec la tradition.
Oui, oui. C'est compliqué la question. Écoutez, dans le vocabulaire même que vous employez, il y a une difficulté. Tradition pluraliste. Si c'est une pluralité, un pluralisme interne à la tradition, c'est kasher. Jusqu'à ce que, pendant tout le temps où on a jugé que, si vous voulez, par exemple en mathématiques, vous avez des équations, la même, qui ont plusieurs racines. Ça peut être cette racine ou une autre racine. Vous comprenez l'exemple que je vais donner. Les deux racines sont les mêmes. Mais si il arrive que, et je parle donc d'une pluralisme d'opinion à l'intérieur de la tradition. Mais s'il arrive qu'on doit décider pour la collectivité, c'est-à-dire ériger une des opinions en règle pour l'action, les autres opinions sont encore cachères pour l'enseignement, pour comprendre. Mais pour faire, alors il n'y a plus de pluralisme. Pour agir, enfin pour se conduire. Est-ce que c'est clair? Mais dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un pluralisme d'opinion. Il s'agit d'un pluralisme d'aspects d'une opinion unique, qui est l'opinion traditionnelle. Et ça s'étudie, est-ce qualité. Et d'une certaine manière, lorsqu'on dit que lorsque les rabbins du Talmud avaient à décider sur un problème, alors ils votaient démocratiquement. Manu et Gamou, c'est-à-dire ils ont compté les opinions, ils ont décidé d'après la majorité. C'est vraiment de la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie des juifs, c'est la démocratie des sages. Mais la différence. C'est-à-dire, on ne prend pas référendum. La vérité ne se met pas au pouvoir. C'est la, on prend la balance de l'opinion des spécialistes, pas du tout des fidèles. Parce que 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait toujours 0. On ne peut pas dire, il y a 1000 juifs qui pensent comme ça, il y a 2 juifs qui pensent comme ça, donc je suis les 1000 juifs. Ça, c'est 0 plus 0 plus 0. Et je pense que c'est clair.
Donc la base de la halakha, c'est précisément donc d'avoir une opinion qui sert de guide.
Halakha, l'émarassé. C'est-à-dire, lorsqu'il faut décider, à cause du risque de
dispersion.
Plus que ça.
L'éclatement.
Et un peu comme on dit que des sports, diaspora, je vais vous dire.
Désintégration.
Alors on décide, bon, on continue à comprendre d'après toutes les opinions, mais pour faire, alors on choisira une parmi.
Est-ce qu'il peut y avoir des changements sur cette interprétation?
Écoutez, je préciserai simplement, me pose la question s'il y a eu changement successif d'interprétation. C'est le mot changement qui n'est pas exact. Il y a renouvellement de sens, jamais changement. Ouais, je vais essayer d'indiquer ça en hébreu. En hébreu, il y a deux termes pour dire le changement, shinui et chidouche. Shinui, ça veut dire un changement, et alors on devient autre. Sheni, deuxième. Chidouche, il y a un changement, mais on reste même. Comment dire ça en français? On se renouvelle. Chidouche. Okay? Et le chinouille est interdit. Le chidouche est pas seulement recommandé, est exigé. Je vous donne un exemple. Un des grands slogans du Rav Kook, Kuzatzal, le père, le grand Rav, c'était Tsarir, les Kadesh étaient Khadash, ou le Khadesh est Akadosh. Il signifie qu'il faut sanctifier ce qui apparaît de nouveau et renouveler ce qui était sanctifié. Mais ce serait une erreur fondamentale et de mauvaise foi de dire il faut intégrer des changements. Il ne s'agit pas de ça. Il n'a pas parlé de chinouille, il a parlé de chidouche. Vous comprenez la différence? Le chinouille, c'est ce qui se passe dans le temps des Goïm. Le chidouche, c'est ce qui se passe dans le temps d'Israël. Achodesh azelachem, rochodashim. Tandis que le temps des Goïm, en chadash tachat hashamesh, puisqu'ils vont avec le soleil. Il n'y a rien de nouveau chez les Goïm. En chadash tachat hashamesh. Parce qu'il y a chinouille, il n'y a rien de nouveau dans le sens de hadash, mais il y a destruction par altération. Ça, c'est chinouille, changement. Je pense que vous comprenez mieux le. C'est-à-dire, il y a deux dangers. Changer, c'est un premier danger, et un deuxième danger, ne pas renouveler. Mais ça n'a rien à voir. Ben, c'est ça. Mais entendez-le en hébreu. Hadash, le chinouille. Il va être très difficile. Oh, vous savez, il y a une imprécision. Comment?
Est-ce que ce n'est pas le mot interprété?
Non, non. Ah oui, tu prêtes à la confusion, mais on ne peut pas l'employer, on va l'interpréter dans le garde. Non, il ne s'agit pas d'interpréter. Il s'agit de faire dire à la Torah ce qu'elle dit pour le temps où nous vivons. Et non pas de faire dire au temps ce qu'il veut que la Torah lui dise. Vous voyez la différence? Ça, c'est le chidouche. La Torah dit ce qu'il faut entendre. Le chinouille, c'est on ne veut plus de cette Torah, on la change par autre chose. Mais on prend le critère dans le temps, c'est-à-dire dans l'éphémère. Vous savez, au fond, il y a une analyse de la modernité à faire. Qu'est-ce que c'est que le moderne? C'est ce qui est déjà démodé. Ce qui est moderne est déjà démodé. C'est éphémère. Vous comprenez? C'est une pseudo-valeur, la modernité. Et une pseudo-valeur.
Quand c'était l'Église a dit quelque chose comme c'est la dernière interprétation qui est la bonne.
Attendez, je n'ai pas entendu M. Lévinas, mais je devine, si vous voulez.
J'ai pas le texte exact, mais.
Non, c'est une règle de l'étude talmudique. Et lorsque nous avons plusieurs opinions successives, alors on comprend comme les premiers et on fait comme les derniers. Vous allez prendre un exemple et ça va nous prendre 3 heures.
Non,
mais je crois que là, c'est la dernière opinion qui est la bonne. C'est pas exactement comme ça. C'est qu'on nous donne différents enseignements. Et c'est toujours le premier qui est l'essentiel. Il faut comprendre comme ça d'abord. Et on fait comme le dernier enseignement. C'est-à-dire, si vous voulez, si je veux comprendre la Torah, je dois la comprendre comme Moïse en son temps, mais je dois faire comme mon rabbin maintenant. Bref. Et t'as chauffé ta chambador. Le Yassou, mais nous.
On arrive à des affaires alors.
Oui, mais qu'est-ce que c'est Malchouta? Enfin, vous me rappelez une anecdote du folklore algérien. C'est Dina de Malchouta à Sardina. Non, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est Malchouta?
Il peut donc être anachronique du point de vue de l'action.
Comment?
Il peut donc être anachronique
du point de vue de l'action. Oui, surtout dans le sens d'une anticipation. Vous savez, faire comme dans l'avenir, c'est être anachronique aussi. C'est ce qu'on appelle être progressiste.
Comment ça vient Avodah
Zarah? Avodah Zarah, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que qu'est-ce qu'il y a dans votre question?
Expliquez-nous.
Hein?
Dans la chidouche.
Avodah Zarah, c'est le chidouche, c'est chinouille. Le chinois, il devient Avodah Zarah Baruch. C'est pshat, littéral, Avodah Zarah. C'est une conduite, pulpe, travail, service, Avodah Zarah, étranger. C'est comme les étrangers, c'est comme les autres. Ça, a priori, il n'y a pas de jugement péjoratif. Il faut voir ça de façon neutre étymologiquement. C'est le drapeau des autres. Ce n'est pas le mien, c'est celui des autres. Vous comprenez ce que je dis?
J'étais en train de dire à quel point on est dérangé par ce que vous dites sur la fraternité. Parce qu'on est habitué par la modernité à un discours sur la fraternité qui est en deçà du sexuel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le fraternel serait l'inceste, enfin serait un espèce de discours dans lequel on ne s'atteint pas. Le sexuel, depuis la psychanalyse, interviendrait comme quelque chose qui permettrait de naître. Or, vous parlez de la fraternité comme quelque chose d'au-delà du sexuel. Oui. C'est-à-dire que le problème de la moralité se pose en ces termes, comment engendrer les frères?
Oui, c'est exact. C'est ça, oui. Je vous dirais d'ailleurs, ce que vous dites me suggère une nuance importante, c'est que la sexualité est transitoire. À un certain âge, ça s'arrête. Et c'est un apprentissage de la fraternité. Je pense qu'on peut dire à la limite que la relation homme-femme est transitoire dans le sens d'un apprentissage de la relation frère-frère. Je crois que le terme d'apprentissage est peut-être trop précis, mais enfin, il y a de ça. Et puis, bien évidemment, c'est très transitoire, la sexualité, et aussi d'ailleurs, je pense, la psychanalyse. Bien. Alors, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous en poser une. Vous remarquez qu'on n'a pas commencé les études, on est dans les introductions. Regardez bien Rachid, revenez sur Rachid. Il y a quelque chose qui doit vous frapper à propos du jugement des disqualifications des Hébreux. Regardez bien le Rachid en hébreu. Deux minutes, le temps que je cherche un dossier.
Ramban, sans, d'ailleurs très curieusement, sans du tout dire Rachid dit ceci, mais qui fait d'habitude, n'est-ce pas, là donne l'explication du verset et explique bien que. Ouais. Pas mal,
ce
pensait sa mère.
On retrouvera dans l'histoire. Mais c'est très exactement. Regardez bien ce que dit Rachid. Par le fait que Ésaü s'est rendu compte que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père Isaac. Or, le texte nous dit très clairement que les femmes de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rebecca. Vous avez entendu la question? Bon. Alors, j'aurais une petite parenthèse à ce sujet, mais qui peut proposer une explication? Mais j'ai parlé tout à l'heure de demi-repentir d'Ésaü. Ésaü s'est repenti vis-à-vis de son père, mais pas vis-à-vis de sa mère.
C'est le père qui donnait la bénédiction.
Comment?
C'est le père qui donnait la bénédiction.
Oui, mais c'est la mère qui donne le diagnostic. J'anticipe. Vous avez raison. Mais le repentir d'Ésaü n'est pas complet. Il se repent vis-à-vis de son père, et le texte le dit très explicitement. C'est quoi Rachid le signale? Alors, que se passe-t-il là? Je voudrais vous rappeler un tout petit schéma kabbaliste que j'avais cité il y a 2-3 ans. sera belle, après je vais parler. Une chose très jolie, d'ailleurs.
Si nous écrivons l'alphabet et 22 lettres, on commence à 9. Et 22 divisé par 2, ça fait 11. La 11e lettre, c'est la même. Et ensuite, donc, la moitié de l'alphabet, ensuite c'est le même. Et la fin, c'est la table. Bon, je vais le dire très rapidement, donc simplement pour utiliser ce schéma dans notre étude. La deuxième lettre, c'est le bête. Alors, le premier mot de la langue hébraïque, c'est Av, c'est-à-dire le père. Vous allez retrouver des préoccupations. Et si la relation au père est résolue, alors peut s'installer la relation à Dieu, elle. Et si la relation à la mère est résolue, elle, alors on peut dire à l'autre, acte, toi. Alors, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond avec Ésaü, sa mère et les parents. Bien, je vous donnerai quand même la citation classique de ce thème. Les Midrashim qui parlent de ce problème citent un verset des proverbes de Salomon. Shema beni musar abicha ve'al kitosh Torah timecha. C'est-à-dire, littéralement, ça signifie « Écoute, mon fils, la morale de ton père, Moussa Rabicha, et ne t'écarte pas, et ne rejette pas, Torah Timecha, la Torah de ta mère. » Mais vous voyez que la Torah passe par la mère. C'est le Moussa qui passe par le père. Et à propos de ce verset, « Shmar beni Moussa Rabicha, Velkitosh Torah Timecha », le Midrash dit « En Abicha, et la Abicha Sheva Shamaim » Ton père, ici, dans ce verset, c'est le père qui est au ciel, Dieu. Vous voyez le rapport. Ve'en imecha, et la mère dont il est parlé, c'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Alors, revenons à notre schéma d'introduction. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Ésaü s'est repenti vis-à-vis du père, vis-à-vis d'Isaac, mais pas vis-à-vis de la mère. Il s'est repenti vis-à-vis de Dieu, mais pas vis-à-vis d'Israël. Mais quelle est la position de la chrétienté? Ils reconnaissent ce qu'ils appellent Dieu le Père, et Dieu d'Israël, mais pas Israël. Oui, la position d'Ésaü et d'homme est très exactement celle d'Ésaü du texte. Il y a un demi-repentir. C'est la Rome païenne qui a joué le destin d'Ésaü, l'homme de l'épée, à Harbechatichier, la paix romaine, l'épée romaine. Et il y a un demi-repentir par rapport au Père, au Dieu d'Israël, mais pas par rapport à la mère, le peuple d'Israël. Vous voyez le problème. Bon, mais je referme la parenthèse, tout est clair à ce sujet. C'est-à-dire que nous voyons ici une parenthèse dans l'introduction à notre récit de la fuite de Jacob. Une parenthèse qui introduit d'une certaine manière un demi-repentir des Ésaü. Un demi-repentir, mais repentir quand même, puisque c'est un demi-repentir qui va installer une rivalité qui va devenir dangereuse pour Jacob. Alors, nous abordons la première question de l'exégèse. Le texte va changer la motivation du voyage. Lorsque Rebecca, vous vous rappelez des versets, lorsque Rebecca conseille à Jacob de s'enfuir devant Ésaü, elle dit « Tu iras à Haran ». Lorsque Isaac demande à Jacob de quitter le pays de Canaan pour aller fonder l'identité d'Israël et épouser des filles chez Laban, il dit « Tu iras à Padan Aram ». Or, nous étions dans un récit, le chapitre 28, où la motivation était celle d'Isaac, d'aller à Padan Aram prendre femme. Le récit est interrompu par cette parenthèse du demi-repentir d'Ésaü. Alors, le récit reprend, et c'était l'intention de Rachid. Et là, nous commençons notre étude, Vayetse Yaakov et Bershava, Vayelech Harana. Vous voyez, alors que Isaac envoie à Padan Aram, avec motivation, se marier, le texte nous dit qu'il va à Haran, avec motivation, la fuite devant Ésaü. Pourquoi? Parce que, peut-être là, je commence un peu à toucher ta question de tout à l'heure, parce que Ésaü se présente comme un rival sérieux d'Israël. Enfin, comme un rival sérieux de Jacob. Alors il faut que Jacob s'enfuit devant lui. Et avant qu'il n'y ait eu ce demi-repentir d'Edom, d'Ésaü, eh bien, il n'y a pas tellement de danger. Ésaü est vraiment disqualifié. Mais dès qu'il y a cette apparition de semi-repentir, mais donc de prétention à la rivalité, alors Ésaü devient vraiment dangereux pour Jacob. Que s'est-il passé dans l'histoire? D'où a procédé l'identité chrétienne? L'identité chrétienne a procédé d'une alliance politique, militaire, entre les Iduméens, Edom, donc la descendance d'Ésaü, qui avait finalement installé, usurpé, mais installé la dynastie d'Edom, en fin de compte, Hérode, avec Rome. Il y a eu une alliance entre les Romains et les Iduméens contre les Judéens. Alors il a fallu que Jacob quitte Eret Israël, parce que Eret Israël était usurpé par cette identité de substitut du demi-repentir de Edom devenu romain, chrétien, apostolique et romain commun. C'est-à-dire, c'est la fin du Baal Shemi. C'est la fin du temps du deuxième temps, et c'est le commencement de l'exil contemporain. Alors, dans ce cas, effectivement, Jacob doit quitter, s'enfuir d'Eret Israël, parce qu'Eret Israël est devenu la terre sainte des chrétiens à cette époque, il y a 2000 ans. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Est-ce que c'est bien clair dans ce diagnostic? Alors regardez bien ce que dit ce extraordinaire. Vous comprendrez beaucoup de choses concernant mes voyages. Dans les Midrash, nous allons voir dans cette page-là. Vayetse Yaakov. Amar Abyoshua Ben Levi. Vous avez le Midrash Namadal, 31. Deuxième colonne de la première. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné. Va'alo kvar ne'emar va'ishma Yaakov. Mais n'est-ce pas qu'on nous a déjà dit dans les textes précédents que Jacob a écouté la consigne d'Isaac et est parti vers Padan Aram? Ma'ou ba'yetse. Pourquoi le texte revient sur cet enseignement pour dire il est sorti de Beersheba? Et là, mais Amar. Voilà comment a résolu Jacob. A réhabi ve'imi. N'est-ce pas que mon père et ma mère, Nadmi Reshut, Akset, Lechut, Salaharet, m'ont donné la permission de quitter les Israël pour sortir du pays? Tomar, Shakadol Baruchu, Rotse, Shetse, Veolit, Shambanim, Olo. Olav, Olo. Est-ce que tu peux dire, ici, est-ce que je peux penser que Dieu lui-même veut bien cela, que je sorte du pays et que j'aille enfanter des enfants en dehors du pays d'Israël ou pas? Halach, Ritol, Reshut, Ashrina. Alors il est allé demander la permission à Dieu lui-même. Kema de Adama, c'est comme tu dis dans ce verset, Vayetse. Dans un autre verset où il y a la même expression, Vayetse Moshe Meim Paro, dans le livre de l'Exode. Lorsque, dans une des péripéties, des menaces de Moïse sur les plaies d'Égypte, à propos des plaies d'Égypte, le verset dit, et Moïse sortit d'avec Pharaon. Et Taïr, il sortit de la ville et il quitta Pharaon. De même que dans ce verset de l'Exode, c'est pour rencontrer le dévoilement de la présence de Dieu. Moïse ne peut pas recevoir la révélation tant qu'il est dans la ville de Pharaon, parce que c'est en droit d'impureté, donc la prophétie ne peut pas se dévoiler. Il faut qu'il sorte de la ville dans les champs en Égypte pour pouvoir recevoir la révélation. Alors, de la même manière que dans le verset qui dit que Moïse sortit de la ville, c'est pour aller au-devant de Dieu, ici aussi, Jacob est sorti de Beersheba pour aller demander la permission à Dieu de quitter le pays. C'est-à-dire, on ne peut quitter Israël que si on a une permission. Et comment est le mashmar, comment est le raisonnement de l'exégète? Et ici, on me dit, je sais déjà que Jacob a quitté Beersheba. Je le sais du chapitre 28 qui précède. Et il suffit qu'on me dise, pour rapprocher les péripéties du récit, que Jacob est allé à Haran, pour m'indiquer qu'il est allé à Haran et pas à Padan Aram, que la motivation a changé, que Ésaü est devenu dangereux, il faut s'enfuir. Vous comprenez? Il ne va pas seulement se marier, il va aussi s'enfuir. Parce qu'entre-temps, la prétention de rivalité d'Ésaü devient dangereuse. Enfin, c'est 2000 ans pendant lesquels on pris naissance à cette époque-là, dont je vous ai parlé de la destruction du deuxième temple. Pendant 2000 ans, presque la tentation de citer une des mythes de Musset, je ne sais pas laquelle, cet étranger vêtu de noir qui me ressemble comme un faux frère. Je vous rappelle ce verbe à soutenir. Et je crois que c'est la nuit de décembre, d'ailleurs ça devait être la nuit de Noël. Et pendant 2000 ans, cet étranger vêtu de noir s'est pris pour Israël et avait une rivalité consolidée par son repentir vis-à-vis de Dieu le Père. Vous voyez à peu près ce qui s'est passé. Alors Jacob doit s'enfuir. Il est en danger à Jérusalem lorsque Jérusalem est la ville des croisés. Alors il ne peut pas. Parce que s'il reste, eh bien, c'est Caïn qui tue Abel. Et donc c'est ce qu'indique le texte, dit le Midrash. Il est sorti de Beersheba, ça veut dire il est allé au-delà de la révélation de Dieu pour lui demander permission de partir parce qu'il doit partir, il doit s'enfuir. Je pense que j'ai un peu répondu.
Mais le problème, c'est plus compliqué parce qu'il y a une discussion pour savoir si Isaac habitait effectivement à Beersheba ou à Hébron. Et on sait qu'avant que Jacob parte au Padan Aram, il est parti pendant 14 ans à la Yeshiva. Aucune allusion à la modalité.
De Shem et de Rémi.
Il est parti, donc il s'est étudié pendant 14 ans, d'abord, et c'est pour cela qu'il se trouvait à Beersheba, alors que certains commentateurs, à Hébron, habitait son père. Donc oui. Je crois qu'il y a une complication par le fait que pour se cacher d'Ésaü, qui sait très bien qu'il va aller à Padan Aram, Jacob va à la Yeshiva de Shem et Rémi.
C'est exact.
Et, il y a et ensuite, il se fait d'ailleurs rattraper, comme le dit le Midrash, par Esaü, qui le dépouille de tous ses biens et son fils, tous ses biens matériels.
Oui, nous verrons ça à la fin du verset dans certains textes qui nous sont donnés dans cette page. Vaishkav Bamakom Ahou. Et il dormit dans cet endroit.
Alors, il n'avait pas dormi, oui.
Là, le Midrash indique qu'il n'avait pas dormi pendant ses 14 ans où il étudiait, qu'il ne dormira pas non plus pendant les 20 ans où il sera chez la base. Ce sont deux Midrashines parallèles, mais qui se recoupent, que là-bas il a dormi. Et c'est parce qu'il a dormi qu'il a rêvé. Mais il y a deux indications différentes, deux questions différentes. C'est le fait que ces 14 ans, puis ces 20 ans, préfigure d'une certaine manière l'exil de Jacob, et l'exil de Jacob correspond au troisième exil, l'exil d'Edom. Et il y a un long temps qui peut être donné pour être à la yeshiva de Shem et de Hever, à l'école des valeurs antérieures de Shem et de Hever, de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire à l'écoute de l'humanisme des nations dans la galoute. Disons 14 ans, 14 siècles. Mais finalement, on sort de la yeshiva de Shem et de Hever, et c'est là qu'ils ont eu à temps, et si on ne s'en suit pas, alors c'est la Shoah. Ça, c'est la première indication. Deuxièmement, nous verrons plus loin, vers Sheva ou Hebron, à quoi ça ressemble. Oui. Et à partir du moment où, si vous voulez, écoutez, évacuons un peu l'analogie précise de la situation historique de Jacob qui vient à Israël. Prenons le thème typologique. Jacob est chez Esaü. Et je pense, bien que nous ayons parlé de cette question d'autre part avec Michel Prince, je pense que le vrai problème, c'est le problème de ce que nous avons vécu à la génération précédente. Le peuple juif s'est laissé prendre au piège d'une civilisation caïnite, je ne sais pas comment dire, enfin d'une civilisation devenue malade. Et il a perdu 6 millions de ses membres. Ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de cette génération qu'il faut oublier le caractère colossal de l'événement. C'est quelque chose d'énorme. Nous avions, au dernier séminaire, l'année dernière, un peu fait allusion à cela, à propos de l'étude du livre de Job, certains d'entre vous s'en souviennent. Et où Maïmonide explique que ce n'est pas Dieu qui est responsable des souffrances de Job. un peu ce problème-là, pas que je marche sur les œufs. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a là une situation de piège dans laquelle un peuple s'est laissé prendre au piège d'une civilisation qui se diagnostiquait comme étant devenue malade. Ce que je veux ajouter aujourd'hui, c'est que ce n'est pas fini, c'est que ce n'est pas terminé. Nous vivons toujours dans la même civilisation malade. Et par conséquent, il n'y a que deux possibilités. Plus une troisième mécanique, utopique. Hein, mais ça, rendez-vous à la fin des temps. Ou bien Abel se laisse assassiner par Caïn, parce que Caïn n'a pas été éduqué. Mais faisons le bilan de nos 2000 ans de messages des valeurs éternelles du judaïsme dans la situation occidentale. C'est un échec énorme, Auschwitz et Hiroshima. Bon, c'est peut-être pas notre échec, mais c'est un échec. Et la suite, et le reste, et tout ce qui se passe dans le monde, et qu'à lire le monde, vous voyez ce qui se passe. La deuxième éventualité, c'est de s'enfuir. S'enfuir où? Et peut-être que la génération précédente, ce n'était pas nécessaire. Peut-être. Je me fais l'avocat du diable. De s'enfuir en Eretz-Israël. On pouvait s'enfuir en Australie. On pouvait s'enfuir à Cuba. On pouvait s'enfuir en Angola. Mais aujourd'hui, où s'enfuir? Pour se mettre à l'abri. Pour les Juifs. Où? Il n'y a plus où. Je pense que c'est clair. Mais vous voulez Ouganda? Et comme disait je ne sais plus qui, alors là-bas il va dire Amin. Non, je crois qu'il faut vraiment, non pas prendre les choses au tragique, mais il n'y a jamais de tragique, mais au sérieux. À partir du moment où l'analyse de correspondance du texte de la Bible et de l'histoire vécue est tellement analogique, eh bien, je crois que il ne faut plus appuyer le bon Dieu s'il arrive des catastrophes. Bien, comme il ne reste que 5 minutes, vous avez encore la parole pour 5 minutes, et puis alors, dans tous les cas, demain, nous embrayons sur le verset, parce qu'on n'a pas encore lu le verset lui-même.
Il semble que ce soit quand même encore plus compliqué que cela. Parce que, finalement, Jacob sort essentiellement pour se marier. Et le commentateur explique bien qu'il n'a été puni pour n'être pas resté auprès de Isaac que des périodes où il a été absent pour d'autres raisons que de se marier. Ce qui semblerait indiquer qu'il n'aurait pas été autorisé à s'enfuir de l'Ésaü.
Il y a encore deux choses de la même question, le début et la fin de l'analyse. Alors, on prend le début d'abord. Effectivement, Rebecca avait dit, et tu resteras là-bas, Yamim Ahadim. Mais fais bien attention, Yamim Ahadim, dans le texte biblique, dans le chapitre 27, ce n'est pas quelques jours, Yamim Ahadim. Yamim signifie des années. Je crois que l'hébreu de la Bible veut dire une année complète, et dit Yamim. Une année de la lune, mais enfin, c'est une année complète. Yamim Ahadim, quelques années. Le texte ne précise pas. Mais j'ai signalé tout à l'heure quel était le signal, quel était le signe de l'accomplissement des engendrements. C'est la naissance de Joseph. C'est la naissance de Joseph. Tant que Joseph n'est pas né, Jacob ne bouge pas. Mais dès que Joseph est né, le jour même, il dit à Laban, je m'en vais. Et qui est Joseph? C'est précisément cette émergence de la capacité de fraternité en Israël, ça veut dire des Juifs entre eux. Et je pense que, effectivement, oui, vous avez compris, à partir du moment où cette solidarité obligée des Juifs entre eux est apparue à la suite des persécutions du XVIIIe siècle, c'est là qu'a émergé la solidarité des Juifs entre eux. Joseph est né, alors c'est le temps du Mashiach ben Yosef, alors c'était le temps de décrocher. Et je dis bien solidarité obligée, parce qu'il y a une caractéristique de la destinée juive, je ne dis pas le destin juif, d'être obligé à la vertu. Comme ça, on est sûr que c'est irréversible. Vous comprenez ce que je veux dire? L'alliance que Dieu nous donne, il nous oblige. C'est kfia. Mamash kfia dati. Parce que si ça dépendait de notre bon vouloir, ce serait aléatoire. Ce n'est pas Abraham qui contracte alliance avec Dieu. C'est Dieu qui contracte alliance avec Abraham. Alors on est sûr que c'est irréversible. Est-ce que c'est clair? Un autre exemple. Et c'est pourquoi je dis solidarité obligée. Les vertus juives nous sont imposées On ne peut pas faire autrement. Il y a ici, si vous voulez, le cas particulier de la coïncidence entre l'intérêt et la vertu. Le juif est cet homme qui a intérêt à être vertueux. Mais c'est le seul qui est dans ce cas. Et sous peine de mort. Et l'exemple qui nous est donné, c'est dans la Gemara de Shabbat, quand Israël est arrivé au pied du Sinaï. Vous avez étudié déjà ça. Alors, d'après l'exégèse du verset, il lui a soulevé la montagne et a dit à Israël, « Si tu acceptes la Torah, c'est bien. Sinon, je lâche la montagne et tu verras bien. » Et alors, quoi? Et la liberté? Vous voyez, tous les problèmes qui surgissent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Torah oblige. Mais le mérite, c'était d'aller là-bas. On savait très bien ce qui nous attendait. Dieu allait se révéler pour donner la Torah. Le mérite, c'est d'arriver jusque-là. Mais ce n'est pas n'importe qui que Dieu oblige. C'est à celui qui est prêt à accepter. Alors, dès qu'Israël est prêt à accepter, il dit, bah bon, ça va très bien, mais je t'oblige. Comme ça, c'est sûr que c'est irréversible. Parce que ça ne dépend pas de ton bon vouloir. Tu as mérité, librement, c'est clair. Tu es prêt à accepter. Alors, puisque tu es prêt à accepter, alors je t'oblige. Comme ça, c'est sûr. C'est irréversible. Et c'est clair. Et le Maharal, après je vous dirai comment le Rav Levi Nachman à Jérusalem nous a expliqué cela. Dans la situation contemporaine. Le Maharal a expliqué cela en une analogie sur les lois du mariage. Vous allez voir ce que c'est vraiment extraordinaire, de finesse, dans le Maharal. Vous savez que la Torah prévoit que si un mariage ne marche pas, il y a un divorce. Il y a des cas où on n'a pas le droit de divorce. En particulier, lorsque un jeune homme doit épouser une jeune fille qu'il a violée. Alors, s'il l'épouse après l'avoir violée, il ne peut plus la divorcer. Vous avez compris le thème? Alors, le Maharal dit, c'est ce qui nous est arrivé au Sinaï. Dieu voulait nous demander un mariage, mais il nous a violés pour s'interdire de nous divorcer. C'est joli. Alors, en tout cas, le Rav Levi Nachmani nous a expliqué ça dans les péripéties contemporaines. Et on va être obligé d'arrêter là, mais on reprendra demain. J'espère avec une voix plus dégagée, mais ça c'est pas dit. Nous sommes dans la période de la résurrection d'Israël. Et la résurrection d'Israël, c'est trois niveaux, trois dimensions. C'est Am Israël, Eret Israël et Torah Israël. Je vais faire une analyse très très engagée politiquement, si vous voulez, mais on peut fermer les livres. À partir de maintenant, c'est privé. Alors il dit ceci. Israël a vécu pendant 2000 ans dans une situation provisoire, anormale, de peuples dispersés. Et puis voilà que Israël ressuscite. On est pour, on est contre, mais en fait, c'est un État. Et il y a eu d'abord la transformation du peuple dispersé en nation. Elle s'est produite en 48. Il y avait 600 000 juifs en Palestine, comme disaient les Romains. Et puis, ces 600 000 juifs ont décidé qu'Israël ne serait plus un peuple dispersé, mais une nation. Et ça n'a rien à voir. Être un peuple dispersé, indexé à d'autres nations, et être une nation. Mais ça a été imposé au peuple juif. Le peuple juif n'en voulait pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 48. Les juifs ne voulaient pas de cet État, de cette nation. Ça nous a été imposé. Et c'est irréversible, on ne peut plus rien. Qui peut faire que... C'est fini. C'est irréversible. Vous comprenez ce que... En 67, il s'agissait de l'État d'Israël, ce qu'on appelle les territoires. Personne n'en voulait ces territoires, même pas le gouvernement. Il n'en veut pas encore, mais il n'y a pas qui rentre. Tous les jours, on va rendre, je vous en prie, venez prendre. Mais il n'y a pas un pouce qui bouge. Qu'est-ce qui se passe là? Une histoire de fou. Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que ça nous a été imposé, l'État d'Israël. Et chaque fois, il y a des problèmes. En 48, il y a un problème énorme. On traîne avec nous, c'est le problème des réfugiés. Et on traîne avec nous ce problème, le problème des Palestiniens. Et le monde entier pourrait résorber ce problème en trois coups de cuillère à peau. Hein? Mais il ne faut pas, à ce moment, interdit. C'est écrit dans la Bible. Il faut qu'on traîne ce problème-là. Bon, on verra ça un jour. Et puis, deuxièmement, en 67, le territoire. Ça nous est imposé et on traîne un problème de négociation impossible à cause de ces territoires. Et. Dans n'importe quelle péripétie diplomatique, militaire au monde, dans l'histoire du monde entier, ça peut se résoudre, je ne sais pas quoi, la Prusse orientale, n'importe quoi, l'Alsace Lorraine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le problème simple chez les goyims, chez nous, imposé. Et tu marches jusqu'à la fin des temps avec ce problème. Alors, qu'est-ce qui reste ? pour que la résurrection soit totale, vous avez deviné, il manque encore la Torah. Remarquez que personne n'en veut de la Torah, hein, surtout pas les Israéliens. Ça nous serait imposé. Je ne sais pas comment, mais ça nous serait imposé. Bon.